Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, on continue cette exploration qui est l'exploration du podcast cette année autour de comment est-ce qu'on construit une entreprise qui soit réellement au service du monde, donc tous les enjeux du monde et pas que les enjeux de la personne qui lance sa boîte. Et je suis ravi d'explorer aujourd'hui ce sujet avec Louis, dont l'entreprise, je crois, traite un des sujets qui est les plus importants dans la transition écologique. Et je pense qu'on en parlera, Louis, plein d'autres aspects de ça, parce que je pense qu'on pourrait argumenter que c'est aussi une transition sociale, ce que vous faites avec Arbraculture. Mais je suis ravi de t'accueillir pour parler de tout ça. Du coup, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Mais merci à toi, Thomas.
Avec plaisir, avec plaisir. Et pour lancer, il y a une question que je pose à tous les invités, qui te permettra d'ailleurs peut-être de parler un peu de Arbraculture et ce que vous faites. Et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu as démarré? Et d'ailleurs, je suis curieux parce que je crois pas avoir la nuance, mais je me demande si c'était tout seul au début ou si c'était tout de suite une équipe comme c'est le cas aujourd'hui. Mais donc voilà, comment et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale?
Ok, ben on met tout de suite les pieds dans le plat, c'est super, allons-y. J'ai commencé seul. En effet, je me suis lancé seul avec toute ma motivation. Il y a de ça maintenant. Donc c'était en fait en 2016, en juin 2016, Et comment j'en suis arrivé là, en fait, et à ce choix, il y a deux choses qui se mélangent, en fait. La première, c'est tout simplement la chance que j'ai eue de grandir au contact de la nature. Ça a toujours été une évidence pour moi dès le collège que j'avais envie de travailler, en fait, en lien avec la nature. Voilà. Enfin, quand j'étais au collège, je voulais être garde forestier. Parce qu'en fait, je m'imaginais passer ma vie à me promener sur un cheval dans la forêt. Je me disais, ça va être super. Et puis après, j'ai regardé. Et puis, garde forestier, c'est le SMIC. Et puis, à l'époque, il fallait avoir plus que le SMIC, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, je peux pas être garde forestier parce qu'en fait, il faut que je gagne de l'argent, ça va pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, quoi. Donc.
Oui, je crois que c'est ce qu'on nous a tous et toutes dit, d'ailleurs.
C'est ça. Donc moi j'ai eu la chance de grandir dans un très grand jardin où je passais ma vie dehors en fait à jouer dans les arbres etc à me créer mes univers un peu en mode Seigneur des Anneaux quoi en mode fantastique etc et puis moi je faisais mon kiff je me faisais des armes avec des bâtons et tout. C'était génial.
On a eu la même enfance je crois moi c'était exactement pareil. Il y avait une grande forêt derrière chez mes parents avec des cascades et tout, c'était incroyable et du coup avec mes potes on faisait tous nos week-ends à refaire les scènes.
Okay. Toi, t'avais des cascades, toi. T'étais pas dans le nord, tu vois. Dans le nord, ça n'existe pas, les cascades. Tu vois, t'as les ruisseaux, ça existe, mais les cascades.
Bon, c'était petit, hein. Bébé cascade.
Ouais. Mais du coup, j'allais souvent dans le sud aussi. Et mes parents étant professeurs, on avait on avait les vacances, notamment 2 mois en vacances scolaires. Et donc, j'allais beaucoup dans le sud, du côté du pont du Gard, tout ça. Et là, vraiment aussi, toujours au contact de la nature à ce moment-là. J'allais pas mal en montagne. Bref, c'est tous ces moments où je me sentais pleinement vivant. Et donc, j'ai voulu, de fait, travailler en lien avec la nature. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai fait un bac scientifique dans un lycée agricole, avec une option biologie, écologie, agronomie. Okay. Et l'écologie, c'était vraiment ma matière préférée. Et ensuite, je suis parti faire un DUT, génie biologie, option environnement. Mais alors là, c'était un peu plus par défaut, quoi. C'était un peu plus le truc, bon, il y a quelqu'un de ma promo qui y allait, je me suis dit, ok, je vais y aller aussi, mais à ce moment-là, honnêtement, je savais pas trop ce que je voulais faire, quoi.
Ouais.
Dans ma tête, c'était bon. Je vais être ingénieur des eaux et forêts. Parce que ça paraît bien sur le papier. Bon, plus tard, je me suis surtout rendu compte qu'ingénieur des eaux et forêts, c'est un mec qui restait ou une nana qui restait derrière son ordinateur, quoi. Donc, autant dire que c'était pas le délire par rapport à quand je voulais être garde forestier et me promener dans la forêt, quoi.
Ouais, il y a pas de cheval avec non, l'ordinateur.
Pas de cheval, il y a pas d'arbre, il y a pas de. Et donc, je me suis aussi rendu compte que l'environnement. Donc attention pour ceux qui veulent étudier dans l'environnement. En fait, l'environnement c'est pas genre l'environnement qui m'entoure, c'est pas la nature. Non, l'environnement c'est comment on s'occupe des déchets de l'humain. Et voilà, ça c'était aussi une superbe découverte. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était catastrophique, quoi. Et encore, hein, enfin nous ici en Europe, ça va. Quand on regarde dans plein d'autres pays, c'est juste. Enfin, voilà, il faut pas y penser, quoi.
Ouais.
Et donc, j'ai fini mon DUT. Et encore une fois, il y a eu deux choses. Enfin, du coup, je dirais la recette qui a fait que je suis devenu entrepreneur. Hein, c'est 3 choses.
Ouais.
La première, c'était mon amour pour la nature. La deuxième, c'était ma rage un peu. Il y avait vraiment de la colère, quoi. De contre cette société. Donc, de où est-ce qu'on en était arrivé, de qu'est-ce que moi j'allais offrir si je veux des enfants plus tard et moi-même la vie que j'allais vivre.
Ouais.
Donc une rage contre la société, deuxième ingrédient. Et troisième ingrédient, c'était un dégoût du système scolaire, quoi. En fait, ce côté descendant, moi j'ai toujours été, enfin j'ai pas été fait pour le moule un peu scolaire. Et peut-être, je trouve que plein de gens sûrement ne le sont pas. Et moi, j'ai vraiment été dégoûté de ce rapport descendant des professeurs, ce truc un peu de. Je m'étais dit qu'en faisant le DUT, ça changerait, mais non. En fait, c'était pareil qu'au lycée, c'était la même chose. Et en fait, je me sentais complètement dévalorisé. Enfin voilà. Et donc, il y a eu comme quelque chose de. Ouais, je vais vous prouver. Je vais vous prouver que je vais vous prouver que vos trucs là, c'est tout ça pour finir technicien et avoir un. Être salarié, technicien dans un truc à la con, j'en veux pas. En fait, Mais à ce moment-là, au moment où donc j'avais ces trois étapes réunies, je ne savais pas que je voulais être entrepreneur.
Ouais.
C'est ce qui a créé en fait que je suis devenu entrepreneur, mais
Ouais,
je ne savais pas que c'est ça que je voulais faire.
l'impulsion du départ, quoi.
Parce que moi, j'ai jamais appris à entreprendre ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait
Ouais.
d'école de business, quoi que ce soit, jamais. Et donc, en fait, ce qui a été le pont entre ces trois ingrédients-là et après le fait que je sois devenu entrepreneur, ben, c'est un service civique, en fait. En fait, j'ai fait un service civique dans l'association Unicité à Lille. Et ça a été ça le pont, quoi, qui m'a fait
Ok.
que. Voilà.
Tu peux nous rappeler ce qu'a fait l'association, parce que Unicité, ça me dit quelque chose.
Yes.
J'ai su à un moment donné, mais je me souviens plus spécifiquement. Peut-être ça te permet de dire qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans qui te dit, ok, il faut que je fasse ma boîte, quoi.
Ouais. Unicité, donc en fait, c'est la plus grosse association de services civiques de France. Et il faut dire qu'en fait, les fondatrices d'Unicité ont amené le statut, ont milité pour le statut de service civique en France.
Ok.
Donc c'est gr aussi grâce à elles que le statut de service civique est apparu en France. Et c'est une association donc, qui a plus de 20 ans. Et qui est divisé, enfin voilà, qui est partout en France. Et donc dans le Nord, il y a une antenne à Lille. Et ils proposaient à l'époque un programme très particulier qui s'appelait Rêve et Réalise. Et le principe est, tu postules avec un projet qui soit solidaire, c'est-à-dire qui apporte quelque chose à la société. Et ensuite, tu es dans une promo avec d'autres personnes comme ça qui ont un projet comme ça. Et pendant 8 mois, en fait, tu es accompagné pour le réaliser ce projet. Et en fait, au moment où moi j'ai appris l'existence de ce truc-là, enfin, parce que il y a de fil en aiguille, je suis arrivé à une réunion, puis ils en ont parlé. Et je me suis dit, OK, enfin, en fait, il y a eu un appel vraiment de ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ou rien. Enfin, je veux faire ça vraiment. Prenez-moi, je sais pas ce que je veux faire, mais prenez-moi. Et c'est là où, du coup, je me suis mis à réfléchir. Et où quelque part, la naissance de tout entrepreneur ou de toute entrepreneuse, c'est en fait, c'est la naissance d'un projet, quoi. Tu vois, de dire si je pouvais faire quelque chose, si tout était possible, c'est un peu ça qu'on m'a offert, un espace où on m'a dit, ben voilà, tout est possible, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est là que je suis reparti, du coup, voir à l'intérieur et ce projet-là a émergé. Et donc, le projet qui a émergé s'appelait Jardin et Potager.
D'où
Jardin et Potager,
les pâtes.
Potager. Incroyable. Et il y en a beaucoup de personnes qui continuent de rigoler encore aujourd'hui, hein, depuis déjà 6 ans. Et donc en fait l'idée c'était donc comme le super jeu de mots l'explique de faire de la permaculture avec enfin en tout cas de travailler les espaces extérieurs avec des personnes âgées. Et donc faire de la permaculture dans une résidence de personnes âgées.
Trop bien. Et juste avant, j'ai envie de te questionner du coup sur cette phase-là du début, mais j'ai aussi envie d'attraper un truc que t'as dit, que j'ai aussi vécu, j'ai l'impression, ce côté revanchard, notamment par rapport à l'école. Moi, je me suis lancé à mon compte en dernière année d'études et j'ai fait toutes mes études en alternance et je me souviens très très clairement de toute la dernière phase de mes études où du coup on commence à préparer les gens aux entretiens. Moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce. J'étais à Dauphine dans le master marketing. Et du coup, toute la fin, c'était nous préparer aux entretiens. Du coup, on avait des sessions d'entraînement pour les entretiens dans les grosses boîtes et tout. Et moi, je me souviens, comme j'étais déjà à mon compte, j'étais au fond de la classe et je demandais, en fait, vous avez quoi pour moi? Parce que moi, je veux pas aller dans les grosses boîtes. J'ai pas envie de préparer des entretiens. Moi, je sais que j'ai envie d'être à mon compte et que je vais lancer ma boîte à la fin. Et on me disait, c'est pas une bonne idée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, attends quelques années, lance-toi après. Et j'ai l'impression que tout le monde était contre moi, genre tous les profs, la directrice de l'agence où je bossais. Et du coup, ça a créé un peu cette sorte de colère aussi de, bah, je vais vous prouver que vous êtes des ploucs et que je sais ce qui est bon pour moi. Et j'ai l'impression que ça, c'est un fil rouge que je vois chez plein d'autres personnes qui se lancent où il y a un côté un peu, faut que je prenne une revanche sur quelque chose et que ça crée plein d'énergie pour aller, mettre cette énergie au service d'un projet, parce que c'est pas forcément évident de le lancer au début. Je suis curieux de si tu as observé ça aussi chez d'autres personnes de ton entourage, peut-être, qui entreprennent.
Bah, déjà, moi, ce que je remarque, ce que j'observe, c'est que bien souvent, les gens qui entreprennent ne sont pas faits pour un certain moule. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a comme un moule de la société, de différents métiers qui existent déjà, qu'on connaît entre guillemets plus ou moins bien, hein, mais des métiers qui parfois manquent de sens ou ont du sens partiellement. Enfin, aujourd'hui, je sais que j'entends aussi beaucoup parler de la difficulté de recruter, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont envie de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un éveil un peu des consciences de manière générale, et cet éveil des consciences nous amène à avoir envie de mettre de la conscience aussi dans notre métier, dans ce qu'on, enfin, ce pourquoi on passe énormément de temps chaque jour pour œuvrer. Et je pense qu'il y a déjà ce premier truc-là de, en fait, tous les gens qui, enfin, une bonne partie des gens qui veulent entreprendre, c'est aussi parce que juste, ils arrivent pas, ils veulent, il n'y a pas un moule dans lequel il n'y a pas une proposition, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui est amené dans la société qui répond réellement à leurs besoins, à leur envie de contribuer, de s'épanouir. Mmh. Et donc, même si j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément faits pour être entrepreneurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans cet entre-deux, de ce que j'observe, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde. Mmh. Mais en même temps, c'est pas facile d'entreprendre non plus. Ça demande d'avoir d'autres compétences, d'avoir une certaine nature aussi, un peu entrepreneuriale, machin. Et du coup, c'est un peu un entre-deux, je trouve. Il y a beaucoup de cet entre-deux. Et j'observe aussi, en effet, ce côté... j'ai observé à plusieurs reprises des gens qui avaient créé des boîtes ou des projets qui tournent très bien, qui à la base, pareil, à l'école, c'était pas les bons élèves, quoi. Parce que finalement, les bons élèves, je dirais que c'est ceux qui s'incluent bien dans une entreprise existante et qui vont bien savoir faire les exercices, répondre aux ordres. Et puis, enfin, tu vois, je ne veux pas généraliser, surtout pas, mais voilà, peut-être que, en effet, aujourd'hui, l'école permet de bien correspondre, entre guillemets, aux attentes des services publics et des entreprises privées, mais pas en effet de trouver sa voie, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est un peu comme s'il y a deux options, c'est soit tu rentres complètement dans le cadre et du coup on te félicite entre guillemets avec la sécurité, la structure qui vont avec la majorité, je pense, des métiers sous une forme salariée, ou si, comme tu dis, tu rentres pas dans ce moule-là et qu'il y a des choses qui te vont pas, soit pour le sens que ça donne, soit pour les obligations qui vont avec, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en nous écoutant, parce que on n'a pas envie de suivre les obligations de tu dois être à tel endroit à telle heure et faire telle chose qu'on a pas mal dans le salariat. Et en même temps, si la seule autre voie, c'est d'aller effectivement dans la démarche entrepreneuriale qui, comme tu le dis, vachement dure, demande vachement d'énergie, c'est vrai que je trouve que ça manque un peu d'un entre-deux ou d'un spectre. Moi, je dis souvent que j'ai l'impression que le mouvement des indépendants réinvente un peu, en tout cas contribue à réinventer le monde du travail. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, je suis un entrepreneur avec une boîte et des salariés, etc. Et ce vers quoi j'ai l'impression que toi et moi aussi de plus en plus on tend. Et il y a le côté je suis seul et du coup suffire à moi-même, c'est déjà plus simple entre guillemets que de monter une boîte. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de nuances dans ce que le monde du travail devient pour le monde auquel j'ai l'impression qu'on essaie de contribuer, et toi et moi.
Mais c'est marrant parce que du coup, quelque part, cette nuance, peut-être que j'essaie un peu de l'amener avec Arbraculture, avec mon équipe. Parce que tu vois, chez Arbraculture, on est une équipe d'indépendants. Donc en fait, c'est un peu un entre-deux avec à la fois chacun a sa liberté. Il n'y a pas d'horaire, chacun s'organise comme il veut. Chacun va aussi gérer ses clients, mais on va pouvoir s'entraider entre nous sur nos clients les uns les autres. Yes. Par exemple, là, j'ai des chantiers que je peux pas assurer. C'est moi qui suis en lead sur le client, mais c'est Alex ou Chloé qui vont s'occuper du chantier à ma place. Et puis il y a aussi cet esprit de faire grandir le projet ensemble. Donc on est vraiment ensemble à raconter la même histoire et à essayer d'élever le projet. Et en même temps, voilà, on reste aussi indépendant et donc c'est peut-être un peu un entre-deux entre l'entrepreneuriat et l'équipe. Yes. Et aussi du coup une répartition, enfin du côté commerce également. On a plus ou moins des affinités pour le commerce, mais donc globalement, plus la boîte se développe, plus il y a du coup le commerce se fait aussi naturellement. Voilà, à voir ce que ça va donner. Je connais une autre entreprise qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien. Je pense que ça reste assez nouveau et j'espère que de plus en plus à l'avenir, il y aura en effet ces possibilités-là pour en effet celles et ceux qui sont ni dans la case entrepreneuriale ni dans la case salarié classique, etc. Je pense que ça va émerger de plus en plus.
Ouais, c'est un modèle c'est le modèle des collectifs qui émerge pas mal effectivement chez les freelances et les indépendants, qui prend plein de formes. Après, il y a des personnes qui ont une SaaS et qui du coup délèguent à d'autres personnes et du coup ça forme une sorte de collectif. Il y en a qui deviennent des scopes, qui au final est un modèle qui existait aussi avant, où peut-être par exemple des agriculteurs se rassemblaient pour faire un projet plus grand, mais chacun restait dans leur projet aussi. Mais j'ai très envie de creuser parce que en ce moment mes trucs c'est gestion d'équipe et tout, et ça me parle à fond. Mais j'ai pas envie de louper ce que tu disais tout à l'heure sur le tout début quand tu parlais de jardin et potager. Et je me demande, qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est la permaculture le sujet sur lequel j'ai envie de me lancer? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait l'enjeu de la nature, l'enjeu de ne pas rentrer dans les cases qu'on t'avait vendues des différents métiers que tu pouvais faire et ce côté un peu revanchard. Mais c'est quoi le pont entre la nature et la permaculture? J'imagine qu'il y a un moment de découverte et de révélation de « putain, ce truc-là est important pour moi et pour le futur ». Je veux bien que tu nous parles de ça pour faire ce pont.
Alors, carrément, comment moi j'ai fait le pont? Comme je disais, c'est l'écologie qui me passionnait le plus dans mes études. C'est la matière que je préférais. Et après, juste après, il y avait la biologie. Biologie, science de la vie, écologie, science des écosystèmes, donc de l'interaction que crée la vie, en fait.
Ouais.
L'interaction des différents êtres vivants entre eux et comment tout ça, ça forme un système qui est autonome, qui est autosuffisant, qui est résilient. Et ça, la Terre entière n'est que un ensemble d'écosystèmes. Nous humains, on crée des écosystèmes entre nous, des interactions. On est dépendant, on est interdépendant. L'humain ne peut pas survivre seul. Donc en fait, tout est écosystème. Tout est écosystème. Donc moi, il y avait quelque chose qui me passionnait là-dedans, d'essayer de comprendre le fonctionnement de la vie. Quoi. Comment ça se fait que chaque petite chose qui est à sa place, qui joue son rôle et qui va avoir un impact sur une autre, fait que à la fin la Terre elle tourne quoi. La Terre elle tourne et nous on est capable de. Bon, on a aussi été capable de faire du coup d'énormes conneries et on continue malheureusement. Mais en tout cas c'est pour ça que moi ça me passionnait et ça me passionne toujours. Et en fait la permaculture. Qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est d'abord une philosophie, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Ensuite c'est un ensemble de principes qu'on va appliquer et qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie. Et puis derrière, c'est une méthode qui vise à concevoir des écosystèmes utiles. C'est-à-dire en fait concevoir notre habitat humain, nos espaces extérieurs, nos espaces de vie, etc., tous nos espaces, justement en s'inspirant du fonctionnement de la nature, des écosystèmes naturels, pour voir comment on peut essayer de recréer nos propres écosystèmes qui vont répondre à nos besoins. Puisque aujourd'hui, chacun de nos besoins, c'est une des causes pour laquelle on est dans cette situation-là au niveau planétaire, c'est que on a tout mis dans des cases. Hein, on va faire nos courses au supermarché, on va voir des amis, on va dans un bar, on va dans un truc. On n'a plus vraiment d'espace de vie ou d'espace de production qui soit autosuffisant. On fonctionne plus en écosystème. On a divisé les écosystèmes pour passer à un système plutôt un peu binaire, un peu...
Ouais, siloté en tout cas.
Siloté, c'est ça. Et du coup, moi j'ai tout de suite fait le lien entre, tiens, la permaculture en fait, ça reprend un truc que j'adore qui est les écosystèmes, l'écologie hein, finalement, parce que j'aime pas du tout l'écologie, il y a un gros sens politique, mais au final, moi je suis vraiment sur le sens scientifique.
Ouais.
Et comment en fait... régler les entre guillemets apporter une solution par rapport à toutes les problématiques qu'on a actuelles en s'inspirant de ça. Donc comment en fait ce qui m'inspire le plus dans la vie, ce qui me passionne le plus est en fait une solution, est une solution pour d'un autre côté ce qui me pèse et voilà, moi j'ai un côté assez perfectionniste et du coup j'aime bien trouver, je suis un côté un peu visionnaire, un peu intellectuel, j'aime bien trouver c'est quoi la solution qui est la bonne solution. J'aime pas les solutions qui sont à moitié quoi. J'aime pas le truc à moitié. J'aime pas les gens qui proposent des solutions qui sont pas complètes. Alors du coup parfois c'est pas facile hein, de proposer une solution qui est complète.
Oui.
Et parfois ça peut aussi être beaucoup. Mais peu importe, moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé à cette époque-là. Donc j'ai découvert la permaculture à ma première année où j'étais au DUT. Grâce à un ami qui est parti en Thaïlande pendant 4 mois et qui est revenu et qui m'a partagé ça. C'est là où ça a été la porte d'entrée. Et c'est revenu, finalement, c'est revenu 3 ans plus tard, au moment où je me suis, où j'ai dû me poser la question avec le service civique, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et c'est là que c'est revenu, que ça a réémergé. Je me suis dit, tiens, la permaculture, c'est peut-être le moment d'expérimenter ça ou de mettre ça vraiment en place. Et alors, pourquoi les personnes âgées? Parce que c'était une, ouais, j'étais sensible, enfin, j'avais ma grande tante qui était dans un EHPAD et je me disais, putain, mais c'est horrible, quoi. Ils mangent n'importe quoi à la cantine le midi. Ils les font jouer à la belote toute la journée, alors qu'ils ont des grands espaces verts autour. Ça pourrait être un vrai lien, un vrai espace, un vrai tiers-lieu, en fait, pour recréer du lien avec eux, le monde, la nature, etc. Et bref, c'est de là d'où est venue l'idée. Je me suis dit, ok, je vais me lancer là-dedans, quoi.
Et ça fait grave sens dans ce que tu dis sur les écosystèmes, parce que c'est l'écosystème social et l'écosystème naturel, et c'est un des points sur un des derniers épisodes de podcast que je faisais où on se posait aussi la question de comment créer des boîtes au service du monde. Une des pensées qui a émergé de la conversation, c'est de dire que les entreprises dont le monde a vraiment besoin, c'est des entreprises qui prennent soin de leurs écosystèmes, notamment l'écosystème naturel, donc la terre dans laquelle on s'inscrit, et l'écosystème social, qu'on soit en local par exemple, bah, comment on prend soin de l'écosystème social autour de nous. Et j'ai l'impression que c'était spécifiquement le sujet-là, c'est lier la permaculture, donc l'écosystème naturel, avec l'écosystème social, qui est malheureusement siloté entre les jeunes, les vieux, on met les personnes en EHPAD pour plus qu'on s'en occupe. Et j'ai l'impression que c'était un peu ce mariage, donc ça fait grave sens avec ce que tu disais sur les écosystèmes, je trouve.
Ben, moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait une évidence pour moi, et c'est ce qui, selon moi également, est la meilleure manière de réellement faire une transition. C'est de, en effet, ne pas siloter non plus la nature et l'humain, et d'être vraiment dans comment on peut travailler sur un écosystème. C'est pour ça que je parle d'écosystème utile. Je parlerai aussi après de paysage utile, c'est-à-dire comment on répond à nos besoins, nous humains, dans nos espaces extérieurs, dans la nature en fait. Comment la nature répond à nos besoins? Comment on ramène de la convivialité dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail? Comment on ramène aussi de l'ergonomie, comment on ramène de la santé, du bien-être, de l'intergénérationnel, de la relation. Et en fait, c'est pour moi, c'est ça qui fait que les gens ont envie de s'engager et peuvent s'engager avec nous, contrairement à beaucoup de projets qui sont seulement, entre guillemets, d'un point de vue nature, seulement biodiversité. On va faire un chantier participatif, machin, mais pour aménager un espace de biodiversité, ça, finalement, au final, ça va vraiment être pour la nature qu'on le fait. C'est limite, on va même pas pouvoir s'y promener, il y a pas d'interaction avec l'humain. Et c'est essentiel, on a besoin aussi, enfin, on a besoin de planter énormément d'arbres, donc c'est des projets qui sont géniaux. Mais en tout cas, moi, avec Arbraculture, dans la réponse que j'avais envie d'apporter, c'était vraiment d'essayer la réponse qui va réunir le plus de gens. Et donc, c'était ça, comment on réunit les gens. Et dans les projets qu'on fait, on le voit, il y a des gens qui viennent, parce qu'en fait, par exemple, ils vont, même dans une entreprise, vont faire leur post-club. Et donc, en fait, ils vont venir faire leur post-club, mais dans un espace qui va être d'un coup magnifique. Et du coup, ils vont être sensibilisés parce qu'en fait, ils vont voir une pomme qui va pousser sur l'arbre, ils vont voir un truc, ils vont voir les gens qui s'investissent dans l'espace, et ils vont du coup avoir envie progressivement de s'investir aussi.
Et je trouve que c'est, je vais le noter parce que c'est une démarche qui est purement entrepreneuriale, je pense, et qu'on doit toutes et tous garder en tête, c'est que créer une boîte, c'est effectivement chercher à répondre à des besoins, identifier des problématiques et répondre à des besoins. Et là, je trouve que ce que tu illustres, c'est de dire que c'est important, même sur des sujets qui vont dans le sens de préservation de la nature, tout ce dont on a besoin pour la transition et la lutte contre le changement climatique, il faut aussi prendre en conscience que bah, les êtres humains vont vivre avec ça et que embarquer les gens dans cette transition, pardon. C'est se poser la question des besoins qu'on cherche à répondre. Et aujourd'hui, on a des stratégies qui sont peut-être écocidaires, on va utiliser ce mot-là, pour remplir ces besoins, mais qu'il y a d'autres stratégies pour remplir ces mêmes besoins qui, en fait, prennent soin de l'écosystème. La permaculture est une approche pour, quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est ouais, complètement.
Est-ce que tu disais, enfin, sauf si tu as envie de rebondir, mais...
Non, vas-y, vas-y.
Il y avait un truc que j'avais noté en parcourant votre site et en regardant où, en gros, tu redéfinis un peu ce que c'est la permaculture en disant que c'est le principe d'imiter les écosystèmes naturels pour produire. Et du coup, bon, on peut voir le sens très littéral du produire des fruits et des légumes dans un potager. Mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi de se dire, bah, comment on imite les écosystèmes naturels, évidemment dans le respect de, comme tu le dis pareil, dans des hommes et de la biodiversité, mais pour produire d'autres résultats, comme par exemple bah, produire le remplissage de tel ou tel besoin, mais aussi au sens entrepreneurial ou économique du terme, produire des résultats pour une entreprise. Et je trouve que c'est... Bah, en fait, ça me semble tellement logique, aussi parce que du coup, je connais un peu la permaculture, mais de se dire que la nature fait si bien les choses et on se prive de ce qui est presque le plus grand centre de recherche et développement disponible qui a mis des millénaires et des millénaires à mettre sur point une sorte de machine parfaite, entre guillemets, quoi.
C'est exactement ça, hein. La richesse, c'est là où il y a besoin de la sensibilisation et de revoir les choses. C'est qu'on voit encore beaucoup la nature comme une contrainte, comme quelque chose à entretenir, comme quelque chose, tout ce qui est, dès qu'on va toucher à l'espace extérieur, au final, bah, c'est ça, hein. Ouais. C'est systématiquement cette vision-là, alors que c'est tout l'inverse. Et donc c'est vraiment une transition sociétale que de devoir reconsidérer notre rapport entre nous et notre rapport avec la vie, avec avec nos écosystèmes, avec nos espaces extérieurs, avec la nature, pour pouvoir aller à quelque chose de mieux, quoi. En fait, là on est en train, pour moi, d'être dans une transition du mieux vivre. On est parfois on entend on revient, enfin. Ouais, les hippies, là, ils veulent revenir à l'âge de pierre, ils veulent... Donc, en fait, on entend beaucoup ce côté, en fait, quand être écolo, etc., ou tout le mouvement écolo, machin, ça veut dire revenir à des choses rudimentaires, la sobriété, c'est bien, mais moi, j'aime bien regarder la télé, enfin, tu vois. Et alors que c'est complètement l'inverse, en fait. C'est complètement l'inverse, c'est vraiment... atteindre un stade de vie bien meilleur. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes en dépression, de cancers, le nombre de, enfin, comment, à quel point les gens sont malades, quoi. Les gens sont malades et à quel point, en fait, tout ça, ça nous permettrait, en tout cas, de, au contraire, être en meilleure santé. De sourire à nouveau, enfin de vivre à nouveau en lien et non pas entassé, quoi. Hein, aujourd'hui, on vit un peu entassé, mais on n'est plus en lien, quoi.
Et j'ai l'impression que, comme tu le disais, ça vient beaucoup d'une question d'imaginaire et de perception de soit je suis séparé de la nature et la nature est quelque chose d'extérieur à moi que je dois effectivement contrôler pour survivre. Et moi, je l'ai vu, j'ai vu dans un petit village en Corrèze. Et on n'a pas trop tondu notre pelouse cet été parce que on sait que ça recrée de la vie et du coup on a gardé que des petits espaces et les voisins autour de nous et les voisines étaient pas très heureux, contents parce que ça va attirer les vipères et tout machin, et genre certains voisins ils tondaient la pelouse tous les jours pour contenir une sorte de certain niveau, quoi. Et on voit qu'il y a cette espèce de combat contre la nature qui pousse à l'inverse, comme tu dis, je pense que l'enjeu, c'est de se considérer comme faire partie d'eux, et que ça change tout dans nos comportements ensuite. Si on est séparé ou si on fait partie d'eux, on fait pas les mêmes choses.
C'est ça. Et il y a une notion qui est importante, en fait, pour moi, et ça, c'est une question de perception, mais c'est la notion de la sécurité. Quand est-ce que je me sens en sécurité? Et en fait, est-ce que je me sens en sécurité en faisant partie de la nature? Ou est-ce que je me sens en sécurité quand je ne fais pas partie de la nature? Et je pense que le problème de la société aujourd'hui, c'est que à travers l'éducation et à travers l'environnement dans lequel on grandit, la plupart des gens se sentent en sécurité quand ils ne sont pas, quand ils ne se sentent pas dans la nature. Tout simplement parce que aujourd'hui, quand on est, quand on grandit, on voit la nature nulle part. En fait, quand on regarde, moi je regarde par la fenêtre. Je vais en campagne, je ne vois la nature nulle part. Aujourd'hui, tout ce qu'on connaît aujourd'hui ici, tout a été conçu par l'humain. Tout est conçu. C'est-à-dire qu'on ne voit la nature nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des petites zones un peu sauvages, d'accord? Mais tout ça, ça a été terraformé. Tout ça, ça a été aménagé. chaque champ, chaque bois, chaque ville, chaque village, tout ça, ce n'est rien de ce qui reste de la nature. Le seul endroit où on peut encore voir la nature telle qu'elle est et telle qu'elle a toujours été, parce que, entre guillemets, elle n'a jamais été détruite, donc c'est toujours l'œuvre de la nature et là où elle en est arrivée dans son évolution, c'est la forêt primaire. C'est uniquement en forêt primaire qu'on peut voir ça. Et donc, déjà, tu vois à quel point le problème est là. Enfin, si tu nais dans un monde artificiel, c'est un peu Matrix, hein, mais aujourd'hui, nous, on est dans un monde artificiel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui fonctionne d'une certaine manière, mais nous, on l'a modelé, on a fait un peu des, on est un peu les Lego, quoi. On a fait nos Lego, on a fait notre ville, quoi. Nos villages, etc. Donc, forcément, on ne voit pas la nature. Donc, déjà, si on ne la voit pas, on ne peut pas la comprendre. On n'explique pas non plus comment fonctionne la nature. On explique que, bah, culturellement, il faut tondre un gazon, comme tu dis. Ouais. Le gazon est tendu, les arbres, il faut les tailler. Quand ça devient un peu trop gros, c'est dangereux. C'est dangereux, ouais. Tu vois. Voilà, tout est danger. Et que quand tu vas te promener en forêt, voilà, il faut faire attention. Enfin, voilà.
Les sangliers. Donc, forcément,
tout ce qui part de ça, le sentiment qui part de ça, c'est je me sens en sécurité quand je suis pas dans la nature, quand je suis. Et en fait, le problème est là, tu vois. Ouais. C'est à partir du moment où tu te sens en sécurité quand tu es dans la nature, ou quand tu fais partie de la nature. Je peux dire que tu peux pas vivre en ville, quoi. En fait, les villes telles quelles, tu ne peux pas y vivre. Et donc, t'es obligé de forcer, entre guillemets, le réaménagement, la transition des villes pour y amener la nature, pour ramener la nature en vie et donc te sentir en sécurité. Ah! Et ben, moi, c'est le cas, tu vois. Enfin, moi, je me sens pas en sécurité en ville, tu vois. Moi, je suis en, et ce qui est, je pense, intéressant d'observer, c'est que la plupart des gens qui sont malades, qui sont déprimés, etc., c'est aussi pour cette raison, c'est que inconsciemment, ils ont besoin profondément en fait d'être au contact de la nature et ils le sont pas.
Ouais, il y a une déconnexion profonde entre ce besoin d'être en lien et d'être dans la nature et le fait que leur mode de vie il est pas du tout adapté à ça et ils sont effectivement dans du béton tout le temps. Et je pense qu'il y a des gens, ils passent leur vie entière effectivement à vivre dans des endroits urbains et dans la ville, quoi.
Et oui, et ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est vraiment la nature.
Ouais, c'est fou.
Et ils ne connaissent pas ce que c'est le quelque part le monde qui nous a accueillis, le monde qui a accueilli l'humain.
Ouais.
C'est parce que c'est ça. Sinon, on a pu vivre. Si on peut vivre aujourd'hui sur Terre et si on a pu, si on est l'espèce qui a pu arriver sur Terre, c'est grâce à ça en fait. C'est grâce à tout ce qui est déjà là et ce qui continue d'être là. Et le jour où il y en aura plus, c'est pareil. Nous aussi, on disparaît. Mais pour autant, il n'y a pas forcément le rapprochement qui est fait. Quand t'es en ville, tu peux respirer. Enfin, ouais, parfois ça pue un peu les pots d'échappement, mais tu peux respirer. Il y a pas de souci. Grâce aux océans, grâce aux forêts, tu vois. C'est. Mais. Ouais. Moi, c'est ça qui peut me sidérer. Et quand on, bah, je citais Matrix avant, mais c'est exactement ça. On est là-dedans.
C'est ouf.
Moi, je le vois parce que j'ai conscience en fait de ça, tu vois. Et mais parfois, c'est dur. Bah, parfois c'est dur d'avoir conscience des choses, tu vois. Parfois je préférerais je sais pas être dans la matrice et c'est tout, ne rien voir, quoi, tu vois.
C'est clair.
Parce que parfois c'est pas facile.
Bah la prise de conscience elle est violente et je pense que je sais pas dans ton entourage mais dans le mien et je sais que les personnes qui écoutent ce podcast sont aussi particulièrement touchées par ça, l'éco-anxiété, le fait d'avoir une confiance variable dans ce que va donner le futur. J'ai regardé une interview récemment sur les imaginaires justement de Alain Damasio sur Blast qui m'a fait beaucoup de bien, mais c'est dur quoi de se dire il y a des choses heureuses qui vont arriver dans le futur alors que toutes les infos sont plutôt au rouge pour l'instant. Donc ouais, c'est dur cette prise de conscience et de regarder la chose en face et se dire comment on change les choses. Et c'est peut-être là où on commence à basculer ensemble aussi sur ce que vous faites pour, j'imagine, te sentir dans le mouvement de comment on change les choses. Tu dirais que c'est quoi, une fois que tu as cette philosophie que tu partages avec la permaculture, donc imiter les écosystèmes naturels, produire mieux dans le respect de l'homme et de la biodiversité, se sentir faire partie de la nature et être en sécurité dans la nature, à ton sens, ça impacte comment la manière dont tu mènes ton projet d'entreprise, par exemple, ou dont ça pourrait influencer d'autres entreprises?
Est-ce que tu veux que je parle de ce qu'on fait avec
un tu peux l'illustrer par exemple par ce que vous faites. Ouais, en gros ce que j'essaie de comprendre c'est pour moi par exemple, je suis entrepreneur, je suis aussi convaincu de ça que toi.
mon sujet, c'est peut-être pas la permaculture, mais j'ai envie d'incarner cette philosophie pour faire mieux. Par où je commence, c'est quoi les réflexions, et peut-être qu'on part de ce que vous faites et qu'on peut étendre à ça ensuite, ouais.
C'est sûr qu'il existe aujourd'hui plein de manières de s'engager, en fait, dans une transition, enfin dans cette transition. Et c'est aussi pour ça que parfois c'est pas facile de savoir quoi faire, de ouais. savoir dans quoi j'ai envie de m'investir. Parce que chaque investissement, c'est du temps, c'est de l'énergie, et donc quelque part, c'est bon de réfléchir aussi avant de s'investir s'investir. Et moi, j'ai aussi rencontré des gens qui avaient envie de s'investir et en fait sont investis dans plein de trucs, et au final s'épuisent et à un moment donné, ne se respectent plus, entre guillemets, ne respectent plus leur écologie intérieure, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc là-dedans, il y a une question d'équilibre aussi à trouver. Moi, je dirais que pour c'est ce que je conseille aujourd'hui d'ailleurs à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est partir d'une passion, partir de quelque chose qui fait vibrer, qui donne vraiment envie d'agir, et choisir aussi une problématique qui me touche peut-être plus qu'une autre. Et comment je peux faire un pont entre les deux, entre en fait cette problématique et ma passion. Et après amener du coup un troisième élément qui va être bien l'idée un peu entrepreneuriale ou l'idée la solution. Mais donc trouver une solution qui peut-être rejoint ces deux choses-là. Voilà, dans mon cas, tu vois, c'était comme je t'expliquais les écosystèmes, la nature, et puis l'envie de faire changer cette société, de faire changer tout ça. Et donc nous, la solution qu'on apporte, qui peut être appropriée pour plein de gens, et comme je t'expliquais, moi j'ai envie que ce soit une solution qui touche justement le plus de personnes, c'est la transition paysagère. Donc en fait, c'est comment on transforme nos paysages en paysages qui soient utiles et naturels. Comment on transforme, que ce soit en ville ou en campagne, sur des tout petits espaces ou des grands espaces, comment on va ramener de l'utilité là-dedans pour nous, pour du coup s'y reconnecter, et comment on va amener de la nature pour, parce que c'est aujourd'hui c'est indissociable. Et donc aujourd'hui nous on propose aux gens de s'engager avec nous là-dedans. On a créé donc aussi une communauté pour que les gens puissent participer avec nous à nos projets. Par exemple, là, ce week-end, là, demain, j'ai un chantier participatif dans un bar brasserie avec à la fois les salariés du bar, de la brasserie, plus des clients, plus des gens des habitants des alentours qui vont venir passer la journée avec nous.
Trop bien.
Pour aménager les espaces extérieurs de la brasserie, et puis après, ben, faire une petite dégustation de bière, tout ça, parce que convivialité et utilité. Enfin, ça, c'est ce qui fait qu'il y a aussi une dégustation de bière, ça fait aussi venir des gens qui vont après venir planter, qui vont venir aménager.
Et qui sont sensibilisés, etc. Du coup, par ça aussi, ouais.
Exactement. Et puis dimanche, pareil, là, j'ai un autre chantier où là, on est sur un autre espace et là, il y a encore d'autres personnes qui vont pouvoir venir s'investir. Nous, aujourd'hui, on propose déjà ça, de dire, bah, venez avec nous. Chaque espace aménagé, c'est déjà un paysage transformé, c'est déjà un paysage transformé. Et on a cette ambition à plus long terme de pouvoir proposer à des villes. Moi, j'ai vraiment un rêve, c'est de faire grandir cette communauté, de tous s'engager là-dedans, et à un moment donné de pouvoir frapper à la porte d'une ville et dire, bon, les gars, là, il y a 300 personnes demain qui débarquent, on aménage toute la ville, c'est parti. Et en fait, nous, on est là pour encadrer, boum. Et ça, c'est un peu le rêve qu'il y a derrière ça, et c'est aussi pour ça qu'on est en train d'écrire tout un manifeste, justement, pour essayer d'embarquer un maximum de personnes avec nous là-dedans, que ce soit des gens, des entrepreneurs, entrepreneuses, ou des collectivités, des assos, etc. quoi.
Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est le sujet même de ce pourquoi vous œuvrez et de ce que tu vends et de votre service produit. C'est quelque chose au service de une partie, en tout cas, de ce qui, à notre sens, doit changer. Et du coup, c'est là où, bon, c'est peut-être la première réflexion de se dire, OK, t'as envie d'être au service de la transition avec ta boîte. Peut-être qu'il y a déjà, comme tu disais, une problématique et quelque chose qui te passionne, qui créer un service en lui-même qui est au service, et là c'est ce que vous faites en transformant les espaces des entreprises comme la brasserie ou d'autres entreprises que vous accompagnez, allez le faire aussi de plus en plus dans les lieux publics avec les villes, aider les particuliers à le faire chez eux aussi, je sais que vous avez toute une partie là-dessus. Et effectivement, tout ça, ça fait que bah, la somme de tous ces individus touchés, qui touchent aussi d'autres individus par derrière, ça crée une sorte de masse critique qui embarque les gens dans une nouvelle approche. Du coup, ouais, ça c'est un premier point, c'est de se dire, bon ben voilà, quelle problématique et quelle solution j'apporte qui, en elle-même, est au service d'eux.
C'est ça. Moi, c'est celle que j'ai choisie personnellement. C'est celle qui me parlait le plus, qui me paraissait aussi la plus pertinente par rapport au contexte actuel. Ouais. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et donc, voilà, comment je vais trouver avec, en toute mesure, tu vois, il y a quelque chose un peu de, moi j'ai un peu quelque chose de, un peu de grand. Enfin, j'aime bien voir grand, j'aime bien être ambitieux, etc.
Ouais.
Et voilà, ça c'est, mais ça aussi c'est moi, c'est aussi ça. Et après, on peut aussi, on n'a pas besoin de voir grand. Enfin, tu vois, je peux aussi créer, je sais pas, une petite épicerie dans un quartier et où en fait, ça va complètement changer la vie du quartier. Enfin, tu vois, je veux dire juste moi avec ma petite épicerie et puis je vais créer des choses, peut-être des animations, des petites guinguettes, des concerts le soir dans mon épicerie. Et en fait, ça va ramener ça va recréer une vie dans le quartier. Puis d'un coup, en fait, après, on va avoir envie avec les gens du quartier, autour de l'épicerie, de réinvestir un peu les trottoirs, d'appeler la ville, de dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas un peu végétaliser là autour. Ouais. Et en fait, juste ça, ça peut être aussi hyper hyper inspirant et ça peut montrer que en fait, c'est la toute petite échelle, ça peut avoir un très gros impact à partir du moment où c'est en fait c'est hyper incarné, c'est rayonnant quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas forcément dire il faut voir tout à grande échelle, il faut forcément que je trouve une solution qui apporte machin. C'est vraiment trouver quelque chose qui fait vibrer et qui fait en sorte que toi tu vas être dans une énergie de ouf quoi, parce que parce que tu vas kiffer ce que tu vas faire et du coup le fait que tu as kiffé, ça va boum forcément avoir un impact de dingue autour de toi quoi.
Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un des endroits sur lesquels je voulais venir, c'est ce que tu disais plus tôt dans notre conversation sur les principes de la permaculture. À mon sens, il me semble qu'il y en a 12, mais qui sont sur 3 catégories: soin à la terre, soin aux gens, aux êtres humains, et partage équitable. T'en as un peu parlé tout à l'heure. Mmh. Et là, j'ai l'impression que dans l'exemple que tu donnes, effectivement, même si c'est à plus petite échelle et c'est déjà incroyable, il y a le côté soin à la terre en fonction des produits que t'as dans l'épicerie. Il y a le côté soin aux gens, comme tu disais, de redynamiser un quartier ou de ramener de la vie et du lien social à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ces familles des principes. Et je serais curieux d'entendre... Enfin ouais, comment t'appliques ça, parce que je pense que ça s'applique de base à la permaculture en tant que pratique dans le potager, mais aussi à n'importe quelle entreprise, on pourrait reprendre les mêmes principes et se dire ok, comment je fais ces 3 catégories et les principes qu'il y a à l'intérieur.
Ah, c'est ça. Et tu vois, le troisième principe, c'est partager les ressources et les connaissances. Et dans notre exemple, là, d'épicerie, il pourrait très bien y avoir un espace de troc où les gens, ils viennent et puis ils mettent des choses et puis les gens, ou alors avec un tarif solidaire pour qu'il y ait aussi des personnes qui n'ont pas les moyens qui puissent acheter des choses. Enfin, tu vois, là, on est vraiment dans aussi, donc un des 12 principes de la permaculture, c'est un élément remplit plusieurs fonctions. Et c'est important de voir les choses comme ça. En fait, on va dire que dans l'entrepreneuriat un peu ancien, je dirais aujourd'hui, les dinosaures de l'entrepreneuriat, et puis faut le voir comme ça, faut créer la réalité.
Grave. Puis, c'est has-been cet ancien monde.
Et puis dans le système aussi industriel, c'est un produit, une finalité, un chiffre d'affaires généré, quoi, tu vois. Il y a un peu un truc genre un produit, 30 000 déchets, et à la fin, oh, chiffre d'affaires positif sur le tableau, si on regarde que cet aspect-là. Et donc, on est vraiment sur, tu vois, je vais faire un parfum et en fait, je vais faire tout ça pour arriver à mon parfum. Je vais le marketer comme ça à la fin pour réussir à le vendre. Et après, je vais le vendre. Bon. En fait, aujourd'hui, je trouve que tous les nouveaux projets entrepreneuriaux doivent intégrer plusieurs dimensions pour réussir. Même quand on me dit, ouais, je veux être maraîcher, etc. Mais maraîcher, on gagne pas sa vie, ça, c'est trop dur, c'est machin, etc. Mais oui, parce qu'en fait, si tu ne fais, enfin, en tout cas, c'est pas facile. Si tu veux être maraîcher ou maraîchère en mode uniquement, je vais juste produire des légumes, vendre des légumes, point. Eh ben, ça va pas être facile. Ça va pas être facile dans la société actuelle. Et pour amener une solution qui est durable, eh ben c'est beaucoup, on est plus dans cette idée un peu de, entre guillemets, de tiers-lieux. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui les futurs maraîchers, futures maraîchères, c'est aussi des gens qui vont permettre de recréer du lien localement, que ce soit dans un village, dans un quartier, qui vont recréer du lien, qui vont pouvoir faire des événements, pouvoir faire des spectacles, ramener de la culture, parce que ça aussi, plus il y a de culture, plus il y a d'art, plus les gens s'éveillent aussi, tu vois.
Et la transmission de savoir aussi qui va avec, enfin il y a plein de choses.
Des ateliers, de la pédagogie, faire des visites avec les écoles, tu vois. Et ça, c'est ce qui fait que un maraîcher et une maraîchère demain va réussir, parce qu'il va s'intégrer sur son territoire, il va recréer du lien, il va pas seulement produire des légumes, quoi, tu vois. Et donc, et c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, il faut pas juste produire du fric. Il faut pas juste trouver une solution pour trouver du fric. C'est comment, en fait, je vais amener, en fait, plein de choses. Comment je vais aller au bout de mon concept? Comment je vais pouvoir exploiter ça au bout? Et en vivre, parce que évidemment, il y a un équilibre énergétique et il faut que je puisse en vivre à la mesure qui m'intéresse.
Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est aussi la notion d'écosystème finalement. C'est que toutes les choses que je fais dans mon projet se nourrissent les unes les autres et ça devient une sorte d'écosystème vivant au service d'une finalité, mais qui n'est pas atteignable par une seule voie unique. Tu vois, l'exemple qui me vient en tête aussi, c'est je suis prof de yoga, je fais que donner des cours de yoga. C'est un modèle qui est ultra dur à tenir parce que ça demande à faire genre, je sais pas, 6 cours de yoga tous les jours, toute la semaine. C'est hyper fatigant de faire comme ça. Alors que si on conçoit un écosystème avec, oui, les cours, mais aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent aller autour. Comme tu disais dans l'exemple avec le maraîcher, bah, ça fait un écosystème hyper pertinent et différent pour chaque être humain aussi, parce que la finalité, comme tu disais tout à l'heure, entre problématique, passion et la solution unique qu'on apporte, bah, ça va créer de la différence et donc de l'intérêt pour les projets aussi, parce que ça part plus de l'unicité que de qui je suis et comment je projette ça sur un écosystème entrepreneurial plutôt que je me conforme au métier et je fais ce qu'on me dit que le métier doit faire.
Exactement, c'est ça. Et c'est là amené, donc là c'est un principe numéro 12 de permaculture, être créatif face au changement. Et donc là aujourd'hui il faut réinventer les choses, il faut oser être créatif, il faut oser casser un peu les concepts. Et donc pour illustrer, parce que j'ai pas vraiment répondu à ta question, nous en entreprise, un petit peu, en fait, pour peut-être dire c'est quoi un projet, enfin je sais pas si c'est le moment ou pas d'expliquer un peu nous Arbre à Culture comment on accompagne un projet.
Ouais, grave, parce que j'imagine qu'il incarne en plus les trois grandes familles qu'on a dit là, donc fonce.
C'est ça. Donc nous aujourd'hui, déjà on essaie d'accompagner tout type de projet pour montrer que cette transition, elle est possible à tous les niveaux et elle doit se faire tous ensemble. Donc que ce soit les particuliers, les collectivités, les bailleurs, les entreprises, les écolieux, enfin on a déjà accompagné tout genre de projet. Et dans une entreprise typiquement, souvent les entreprises, elles ont des espaces extérieurs. Souvent, il y a des bureaux, etc. Il y a des espaces extérieurs, que ce soit une terrasse ou carrément des espaces verts, etc. L'idée, c'est déjà, nous, quand on arrive, de commencer par rencontrer les collaborateurs, les collaboratrices, et faire un peu une sorte de petite conférence interactive pour leur expliquer, nous, un peu notre philosophie, la permaculture, etc. Et puis rencontrer un peu eux leurs besoins et de là leur proposer, ok, est-ce que ça vous dirait de partir dans un projet justement de transformation ensemble là, de vos espaces. De là, il y a ce qu'on appelle un groupe cœur qui se crée. Puisque on va dire que la plupart du temps, les gens, quand ils nous appellent au départ, parce qu'on y voit permaculture, ils se disent « Ok, potager ». Donc, ils se disent « Ok, on va faire un potager en entreprise ». Et alors, nous, on leur dit toujours « Non. » Parce que justement, là, comme tu le disais, c'est le maraîcher qui veut que vendre des légumes. C'est pas une solution complète de dire « Je vais faire un potager en entreprise ». Est-ce que mes salariés, ils ont vraiment envie d'avoir un potager? Pour qui ils s'en occupent? Comment est-ce que en fait, ils doivent s'organiser entre eux? Donc déjà, on va créer ce groupe cœur avec les gens les plus motivés qui ont envie en fait de mettre du temps, et avec eux, on va déjà trouver un peu un rythme et un fonctionnement. Donc la première chose sur laquelle on travaille, c'est l'humain. C'est de dire comment on s'organise entre nous, comment on fonctionne en fait pour se réunir, pour faire avancer ce projet, comment on décide ensemble, quel mode de gouvernance et à quelle fréquence, etc. Avec ce groupe-là de personnes un peu plus engagées que les autres, eh bien, on va, première étape, poser les questions. À quel besoin est-ce que vous avez envie de répondre dans vos espaces?
Yes.
Si tout était possible, à quel besoin? Donc déjà, eux, ils sortent de la matière et après, ils vont poser la question à leurs collègues, etc. On fait passer des questionnaires ou des choses comme ça. Et de là, on a déjà un peu une étude de, OK, voici tel besoin. Tiens, en fait, il y en a qui ont envie de mettre les mains à la terre, qui ont envie de produire des légumes. Ah, OK, bon, OK, donc les potagers, pour le coup, ça pourrait être adapté. Ah, il y en a qui veulent pouvoir aller fumer dehors. OK. Il y en a qui veulent se garer. Bah oui, ça fait partie des besoins. Il y en a qui veulent pique-niquer dehors, pouvoir manger, etc. OK. Il y en a qui veulent juste prendre leur café. Il y en a qui veulent avoir un espace de au calme, pouvoir faire la sieste en tranquillement à l'ombre d'un arbre. OK. Il y en a qui veulent pouvoir se promener. D'accord. Tu vois. Et là, on va vraiment lister tous les besoins. Il y en a qui veulent jouer, qui veulent pouvoir jouer au molki ou à la pétanque, tu vois. On va vraiment lister tous ces besoins. Et bien sûr, en fonction de l'espace, de la grandeur des espaces, après, il va falloir prioriser un peu les besoins. Ouais. Donc, la deuxième étape, nous, ça va être d'observer les espaces avec les salariés. Tiens, qu'est-ce qu'on a en fait? Quelle orientation? Quel type de sol? Quels sont les vents dominants? Les accès, les bordures, les points de vue, etc., etc. Et comment on va, du coup, analyser toutes ces observations? Donc ça, c'est principe numéro 1 en permaculture, observer. Et interagir. On interagit après l'observation. Et donc de là, on va partir dans la conception, ce qu'on appelle le design en permaculture. On va pouvoir concevoir étape par étape avec le groupe cœur et avec du coup après les autres collaborateurs, collaboratrices, leurs espaces en fait. Et c'est eux qui vont concevoir en fait. Et donc ça, c'est la première étape de notre accompagnement. Ça, on arrive à la fin avec une présentation devant l'ensemble des équipes. Ben voilà le projet qui a été pensé. Et puis du coup est-ce qu'on valide, est-ce qu'on y va quoi. Deuxième étape, eh bien c'est l'aménagement, et donc là en fait on fait du chantier participatif. Ce sont encore une fois donc les collaborateurs et les collaboratrices en mode team building qui vont aménager avec nous, qui vont planter, qui vont construire les bacs, les tables, les choses, pergolas, etc., etc. Et comme ça on va ensemble aménager dans la convivialité, le midi on fait une auberge espagnole, tout ça, et dans la pédagogie, les gens vont s'approprier leur espace, ça va être leur entreprise, leur espace extérieur, c'est leur arbre, ils ont planté, ils vont aller le voir, etc. Et en plus, il y a vraiment une satisfaction du avant-après. En une journée, on aménage des trucs, c'est assez incroyable, quoi. Et la dernière étape de notre accompagnement, ça va être de suivre ce collectif, de suivre ce projet jusqu'à une autonomie. C'est-à-dire que il y a deux aspects sur lesquels on doit accompagner ce genre de projet. Le premier, c'est la technique, tout simplement. Former les gens à savoir cultiver tous les mois s'il y a des espaces de potager, entretenir les espaces, tailler les arbres fruitiers, tailler les choses. Donc tout l'aspect technique. Et la deuxième, c'est l'aspect humain. Et c'est là où souvent on oublie d'activer cet aspect-là. Et c'est celui qui fait que ça réussit ou pas, quoi. C'est vraiment cet aspect-là qui fait que ça réussit ou pas. Donc c'est comment on anime le lieu, comment on l'entretient entre nous. Donc comment on s'organise pour l'entretenir.
Ouais.
Est-ce que c'est entre midi et deux? Est-ce que c'est à la fin du boulot, machin? Et comment du coup on va le faire durer dans le temps? C'est vraiment la deuxième partie sur laquelle on accompagne, ce qui fait qu'après le projet est durable.
Ouais.
Voilà un peu nous la promesse et la solution qu'on essaie d'apporter, que ce soit en entreprise ou ailleurs. Hein, mais en entreprise, ça, il y a énormément de possibilités et tous les gens qu'on va toucher. Qui vont nous accompagner sur un projet comme ça. Derrière, ils peuvent aller faire ça chez eux, dans leur jardin. Ouais. Ils peuvent rayonner ça en fait autour, et ça qui est vraiment génial.
Et c'est ça, je trouve. Enfin voilà, il y a plein de points dans toute la démarche que tu viens de nous présenter qui touchent aux différents principes dont tu parlais. Et c'est cool que tu les nommes aussi au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est là où la famille de principes sur le partage équitable devient tellement intéressante. C'est qu'en fait, il y a des effets papillons. De démultiplication qui sont incroyables une fois qu'il y a ce partage du savoir. Et ça, ça va aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur silo vs faire partie. C'est que quand c'est, comme tu dis, les équipes elles-mêmes et les salariés eux-mêmes en mode collaboratif qui construisent, qui plantent, qui entretiennent, ça fait qu'ils ont ces compétences pour les réutiliser dans plein d'autres endroits. Et le projet fait des bébés, entre guillemets, là où il y aurait très bien pu y avoir une version de ta boîte où c'est on arrive, on vous fait le taf. Vous partez le vendredi et vous revenez le lundi et tout est fait. Ouais. Et ça n'a pas du tout les mêmes impacts à long terme, quoi.
Vraiment, je te remercie de mettre le doigt là-dessus parce que c'est malheureusement aussi ce que beaucoup font. Enfin, il y a beaucoup de, entre guillemets, de start-up et de boîtes qui se lancent sur cette, entre guillemets, cette mode de, oui, on va faire des potagers au carré, vous vous occupez de rien, votre potager il est fait et puis vous avez des petits paniers de légumes. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment dommage et je trouve qu'il faut faire attention parce que la différence entre les deux, les gens parfois ils rapprochent, tu vois, ils se disent ouais c'est la même chose, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, quoi.
C'est clair.
Parce que nous, enfin des projets comme ça, même en ville, hein, parfois les mairies, allez on va faire un jardin partagé machin, au bout d'un an tu reviens, le truc il est en friche, il y a personne qui s'en occupe. Par contre ça a fait beau à un moment donné des élections, regardez jardin partagé, oui c'est bien. Et en fait la différence elle est folle, parce que quand tu retournes sur un des projets qu'on a mené, quand tu vas sur un projet qui, tu vois, qui continue de s'améliorer et de vivre sans nous.
Ouais.
En fait, c'est un vortex, le truc. C'est un vortex. Ça attire les gens. Enfin, moi, je vois les espaces qu'on a aménagés créer, en fait, une transformation locale des consciences. Tu vois, les gens qui arrivent sur le lieu, une fois qu'il est aménagé, une fois qu'il s'est aménagé, ils comprennent. Parce que ils comprennent par là, juste en vivant, en étant sur place, ils comprennent, tu vois. Alors que et ça a un vrai impact sur justement la société et sur la transition, parce qu'encore une fois c'est chaque personne, chaque individu qui va prendre conscience et qui va comprendre réellement, qui va avoir derrière des vrais impacts dans sa vie. Alors que l'entreprise où t'as un abonnement parce que t'as un jardinier qui vient de cultiver tes légumes, bah ils comprennent rien en fait, tu vois.
Les salariés qui sont là, ça change pas grand chose au final.
Et ça c'est, on reste dans un système de consommation. Tu vois, et on n'est pas acteur en fait, ou actrice, tu vois. Donc c'est, voilà, moi je mets vraiment la vigilance là-dessus aux entreprises qui sont en recherche de ce genre de solution, d'aller chercher la pertinence aussi là-dedans, et de parfois faire attention à ne pas être justement dans un système de pure consommation, quoi.
Ouais, de fou. Mais je pense que c'est aussi hyper dur, tu vois, de sortir de ce paradigme, notamment pour des gens, je sais pas quel âge tu as, mais tu vois, nous on a grandi dans ce paradigme de les choses sont silotées, t'as besoin de quelque chose, tu vas chez la personne qui le fait et tu le ramènes chez toi et tu sais jamais comment ça se passe. Et tu vois, je voulais peut-être même atterrir sur cette question de si on pousse le truc plus loin sur désiloter, partage équitable des savoirs, est-ce qu'il y a un monde où tu te dis, ça serait pertinent qu'on revienne à je sais pas si c'est revenir ou avancer, mais qu'on soit dans un endroit où chacun et chacune d'entre nous, on sait se nourrir de manière quasi autonome, gérer un potager du coup par exemple, enfin voilà, que on acquiert un peu de tous les savoirs plutôt que de se ultra spécialiser sur des tout petits savoirs uniques, ce qui nous rend dépendants des autres, là où du coup on voit que certains circuits d'acheminement se pètent. Enfin, je suis hyper curieux, tu vois, de à quoi ça va ressembler le futur? Est-ce que tout le monde devrait avoir un potager et être à 80% autonome sur sa nourriture? Enfin, je suis curieux de ce que t'en penses si on tire le trait de cette réflexion de désiloter dans la suite.
Ouais, bah écoute, je te remercie la proposition. La question est intéressante. En fait, tu vois, la nature, elle tend toujours vers l'équilibre. Mais, en fait, elle l'atteint jamais. Mais elle tend toujours vers l'équilibre. Et je pense que nous, c'est pareil, on tend toujours vers l'équilibre, on l'atteint jamais. Je pense que la notion d'équilibre, elle est importante. Et il faut faire attention, justement, à ne pas s'engouffrer dans des... Aujourd'hui, on aimerait bien avoir une solution et puis pouvoir l'appliquer partout. Ouais. Voilà, les gars, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça, la solution. C'est ça. Maintenant, vous me faites un copier-coller partout, c'est bon. On s'embête
enfin,
pas.
Enfin, tout le monde à la permaculture, voilà, dès la primaire, 100% produit, des écoles.
Tout, c'est ça. Et en fait, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'histoire de la vie. Les solutions sont propres à chaque contexte. Donc, pour répondre à ta question, non. Enfin, honnêtement, moi, je ne vois pas un avenir où tout le monde sait faire plein de choses différentes et cultiver, et tout le monde cultive, etc. Je suis convaincu que chacun a aussi des intelligences et des natures différentes. J'ai d'ailleurs un très très bon ami avec qui je porte un projet d'écolieu qui travaille sur les intelligences et natures multiples, et donc qui explique que on a tous des appétences et des talents différents, et donc c'est ce qui crée la diversité. Et en fait, le principe d'un écosystème, j'en reviens à mon écosystème, c'est que l'ensemble des individus qui composent l'écosystème crée un écosystème qui soit autosuffisant. Et donc en fait, à un moment donné, si je vais dans la proposition, entre guillemets, le raisonnement de chacun produit, chacun a son potager, est autosuffisant, etc., en fait c'est encore un monde individualiste. C'est l'autre extrême qui nous ramène à l'individualisme. Et donc, en fait, c'est comment on trouve le juste milieu, l'entre-deux, entre Peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 2% de la population qui est agriculteur, agricultrice. Peut-être que déjà, si on remontait à 30, voire 40%, peut-être qu'on serait entièrement, mais en full autosuffisance, on aurait vraiment tout ce qu'il faut à manger. Et que tout le monde, du coup, ce serait que 30 à 40% de la population qui aurait le plaisir, parce que eux, c'est leur plaisir, de mettre les mains à la terre, etc. Ouais. Et aussi, en faisant des métiers nouveaux et pas comme... pas des métiers comme on le voit aujourd'hui qui sont des métiers très durs, tu vois. Un peu dans la version du maraîcher, du maraîchère que je t'expliquais, qui est beaucoup plus dans un mode un peu tiré, bref. Donc, comment aussi il va y avoir des gens qui vont être sur des, qui vont rester sur des métiers plus administratifs, plus, tu vois, comptables, etc. Parce qu'il en faut et parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien ça, tu vois. Et donc, moi, j'ai la croyance que la société plus idéale vers laquelle on tend, j'espère, c'est que chacun trouve sa place. Tu vois, que chacun trouve sa place dans le collectif, que chacun ose faire ce qu'il a envie de faire, ose briller là où il aime briller, et que tout ça, bien sûr, soit fait dans une même éthique et une même cohérence. Et on peut amener de l'éthique et de la cohérence dans tous les métiers actuels. Bien sûr, il y a des métiers qui doivent disparaître. Enfin, ça, c'est sûr et certain. Il y a plein de métiers qui doivent disparaître. Je vais pas les citer, mais je veux dire, il y a plein de métiers qui ont, en fait, de fait un impact extrêmement nocif, que ce soit sur l'humain ou la nature. Il y a aucun intérêt à ce qu'ils existent.
C'est juste des dinosaures. Et peu importe si on leur colle les principes de la permaculture de par-dessus, ça change rien.
c'est plus que si on leur colle les principes de la permaculture, juste on change d'entreprise.
Oui, c'est vrai.
Quoi.
Naturellement, ça évolue.
Donc c'est possible, mais c'est juste que, il faut tout changer à ce moment-là. Donc voilà, moi, un peu ma vision, elle est plutôt là, et c'est comment on arrive à tendre ensemble vers cet équilibre-là. Tu vois, il est là, l'équilibre. Et c'est comment on arrive à y tendre progressivement.
Ouais. Et la nuance que je tire de ce que tu me partages, que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas l'individu qui doit être autosuffisant, mais c'est l'écosystème.
Exactement.
Et que l'écosystème, il aura une forme et une dimension variable. Ce sera peut-être le village ou la région. Et que dans chaque écosystème, ce sera différent, comme tu dis, par rapport au contexte. Et ça me fait penser assez naturellement au fait que, les écosystèmes naturels sont différents aussi en fonction du contexte. Il y a des fruits et des légumes qui poussent mieux à certains endroits qu'à d'autres, et on peut pas forcer ça, parce que juste les conditions sont faites pour. Du coup, merci pour la nuance. Déjà, ça m'apaise, en plus moi, parce que c'est pas malheureusement ma fascination d'aller mettre les mains dans la terre.
Voilà, donc je te rassure. T'inquiète pas, tout va bien. D'autres le feront pour toi, il n'y a pas de souci. Et en effet, comme tu dis, les écosystèmes sont tous différents en fonction du contexte, des conditions, et ils vont aussi avoir des influences les uns sur les autres. Tu vois, donc le côté mondial est bien présent. Tu vois, le désert du Sahara va permettre d'avoir des nutriments dans l'eau pour des trucs à l'autre bout de la planète grâce à des vents dominants. Tu vois, tout est lié aussi à ce niveau-là. Il y a un macro écosystème. Et nous, c'est pareil. Il est aussi à penser, ce macro écosystème. Mais comment on le pense également de manière saine? Parce qu'aujourd'hui, en effet, la mondialisation, c'est plutôt faire la même chose partout, plutôt que de faire la chose adaptée à chaque endroit dans le monde.
J'aurais envie de continuer pendant des heures encore, mais je vais te proposer qu'on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode.
Yes.
Parce que sinon, je vais te demander de prendre chaque principe individuellement et qu'on l'explore. Donc, on va pas faire ça. Mais du coup, sur les questions rituelles de fin, c'est celle que je pose à tout le monde. Et la première, c'est si tu étais face à Louis, qui démarre son tout premier jour en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec l'expertise que tu as développée depuis?
C'est vraiment la question de fin, quoi. Genre, tu veux m'achever là-dessus, quoi. C'est ça.
Fais gaffe, il y en a cinq, hein. Donc, enfin, cinq.
Ok, il y en a cinq.
Il y en a quatre et demi, disons.
C'est dur parce que si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai fait, entre guillemets, tous les apprentissages que j'ai eus, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de me dire qui peut-être changerait ce que j'ai fait, tu vois? Ou changera pas. C'est difficile. Ben, du coup, je pourrais dire, vas-y, quoi, casse-toi bien la gueule. Non, enfin, je pourrais pas dire que je me suis cassé la gueule, mais. Non, je dirais soit. Si j'avais un truc à me dire, je dirais soit toi-même, fais de ton mieux avec ton contexte, quoi, avec ce qui t'est amené, quoi. Et respire et fais confiance et puis sois fier de toi. Voilà, je dirais ça.
Trop bien. La question qui suit. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu as ta boîte et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté?
La plus grosse difficulté, ça a été une relation de travail que j'ai créée et nourrie avec un ancien associé, ancien collègue. En deux mots, voilà, je me suis un peu positionné en sauveur face à quelqu'un qui venait de faire un burn-out. Il a trouvé du coup une opportunité de dingue à travailler avec moi et ça a changé sa vie. Donc j'ai accompagné son changement de vie en fait, sauf que c'est devenu une relation extrêmement toxique et complètement dépendante vis-à-vis de moi. Et en fait, tout mon projet a failli s'effondrer à ce moment-là puisque ce n'est plus le projet qui existait, c'était simplement la relation en fait avec cette personne. Et la grosse difficulté est ça a été de réussir moi à m'affirmer et à encore une fois à faire un choix, à me respecter et à réussir à dire à cette personne c'est fini en fait, et à réussir à couper la relation avec cette personne pour retrouver l'origine de mon projet et me reconnecter à ça en fait, parce que je m'étais complètement perdu dans le désert avec cette personne quoi.
Et vachement dur.
Ouais. Et voilà, c'est parfois je dis souvent l'entrepreneuriat c'est le chemin le plus court vers le développement personnel.
Ouais.
Et je trouve que c'est vrai parce qu'en fait si moi je ne vais pas bien, mon projet ne va pas bien. Si je suis pas capable de prendre des décisions par rapport à des schémas que j'ai, des problématiques que j'ai, ça va directement impacter mon entreprise. Et là c'est ce qui s'est passé et ça a été très très dur à ce moment-là. Ouais. C'était il y a deux ans maintenant. Ouais.
Il y a quelque chose qui t'a aidé, j'entends, je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi on ne peut pas faire l'impasse sur le travail sur soi quand on est à son compte et quand on est entrepreneur, comme tu le dis, parce que on influence notre boîte par qui on est, nos schémas, etc. Est-ce qu'il y a un truc spécifique qui t'a aidé à sortir de cette situation à ce moment-là?
Honnêtement,
c'est dur de mettre le doigt dessus. Hein.
C'est dur. Bah, en gros, je dirais que ce qui m'a aidé à vraiment à passer à l'action, parce que je me rendais bien compte que ça n'allait pas, etc. Mais à chaque fois, j'osais pas prendre une décision. Ouais. Quoi. Ça a été ma compagne, hein, tout simplement, qui était là pour me soutenir et qui était là pour mettre le doigt systématiquement pour me. C'est le fait de prendre du recul, en fait. Prendre du recul sur la situation pour se rendre compte qu'en fait, cette situation est complètement, complètement incohérente et ne va pas du tout. Et c'est elle qui m'a permis de prendre à plusieurs reprises. Voilà, la mesure, en fait, de ce qui se passait. Et donc, qui m'a aidé aussi à un moment donné à m'engager. Enfin, je me suis engagé auprès d'elle, au moment où je me suis dit, OK, demain, ça y est. Donc, je dirais,
Ouais, le fait que ça illustre le fait qu'on peut pas tout faire seul aussi, comme tu disais, et que notre entourage est hyper important pour réussir à passer ces épreuves-là.
Ah, tout à fait. Ah oui.
La question d'après, c'est quoi ton objectif du moment? Après quoi tu cours en ce moment?
Malheureusement, plusieurs choses en même temps. parce que voilà, c'est... Actuellement, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'ai un projet en fait d'écolieu, de créer un éco-village avec un collectif. Et pour ça, on s'imagine là, d'ici 2 ans, vraiment déménager et s'investir sur ce projet. Et donc là mon objectif c'est que d'ici 2 ans mon équipe, enfin mes équipes dans le nord soient vraiment autonomes en fait, et que je puisse continuer de piloter la boîte à distance et bien sûr créer une nouvelle antenne là où je vais déménager. Mais voilà, j'ai vraiment cette envie que là on développe le projet suffisamment pour que je puisse partir en étant complètement serein. Bien sûr, en pilotant à distance toujours les équipes, etc. Mais de plus être sur le terrain, quoi.
Ok.
Voilà, ça fait partie de mes jeux. Et pour ça, là, en ce moment, bien sûr, on a notre formation en ligne, qui est vraiment prête à accompagner tous les gens qui veulent spécifiquement cultiver leur potager, puisque c'est une formation que j'ai créée dans un style un peu c'est pas sorcier, qui est très agréable à regarder du coup en vidéo, qui est assez ludique. J'essaie de faire des blagues, parfois je suis un peu nul, mais j'essaie de faire des blagues, tout ça. Donc, et c'est vraiment comment apprendre de manière ludique à devenir entièrement autonome dans son potager, en faisant un potager à la fois hyper productif, à la fois hyper naturel et à la fois hyper esthétique. Donc en gros, c'est un peu ça la promesse, et c'est une formation, voilà. On l'achète, on y a accès à vie. Tous les mois, on fait une petite session avec les gens de questions-réponses. Et
est-ce qu'il y a au service, du coup, de se décorréler du temps passé de plus en plus pour pouvoir aller faire ce nouveau projet aussi, j'imagine.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est aussi au service d'accompagner les gens partout en France et pas seulement dans le Nord, parce que c'est une formation qui s'achète partout en France et qui peut se regarder en famille. Enfin, voilà. Donc, ça, en effet, ça fait partie des objectifs du moment avec lesquels sur lesquels on travaille pas mal. Parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par cette formation mais qui la connaissent pas, donc en fait on essaie d'en parler un peu.
Trop bien. Et la toute dernière question, c'est si tu avais une question que tu as envie de poser à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent le temps pour réfléchir à la fois à leur vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, mais aussi à leur entreprise, quelle question est-ce que tu souhaites leur poser?
J'aurais dû réfléchir toute une nuit avant que tu me la question là.
Bah, si on réfléchit trop souvent, après, j'ai l'impression qu'on n'atterrit pas sur les mêmes choses. Du coup, il y a aussi de la valeur dans l'instantané, j'ai l'impression. Mais prends ton temps.
La question que je poserais, c'est... C'est peut-être à quel point vous êtes réellement animé et passionné par ce que vous faites, et ou à quel point est-ce que vous faites ça par convention, et simplement mettre la conscience là-dessus en fait, parce qu'on peut aussi consciemment faire le choix de dire ok, oui, je sais que je suis pas complètement ça, mais j'ai pas non plus en fait envie de faire l'effort de passer à autre chose ou d'aller vraiment peut-être vers quelque chose qui me plairait plus. Mais en tout cas, le conscientiser, je trouve ça important.
Donc comme s'il y avait un curseur entre d'un côté convention et de l'autre fascination entre guillemets maladive, on pourrait dire. Enfin, j'ai l'impression d'être dans fascination maladive des fois. Mais ouais, où se situe le curseur et qu'est-ce que je fais du fait que le curseur est à cet endroit?
Ouais, c'est ça.
Trop bien, j'adore cette question.
Voilà.
Merci beaucoup, Louis.
Et puis la deuxième question, ça serait, est-ce que vous avez envie de nous engager avec nous? Venez, Arbra Culture.
j'allais te demander si les gens veulent discuter avec toi, suivre votre travail, en découvrir plus. C'est où que je les envoie? C'est où le meilleur endroit sur Internet pour ça?
Le meilleur endroit, on a notre site Internet, arbraculture.com, sur lequel vous retrouverez notre superbe formation. Vous pouvez venir avec moi dans les vidéos pour tout apprendre. On a aussi des stages pour apprendre à former à notre métier, donc un stage de 3 jours. En 3 jours, on a vraiment fait l'élixir de la conception en permaculture, accompagner un projet, faire un chantier participatif, que ce soit pour en faire son métier ou pour un projet perso, c'est vraiment adapté. Après, on a tout le projet de communauté qui est en train de sortir, qui est en train de se développer. Donc pour l'instant, c'est un groupe Facebook privé qui s'appelle lesarbraculteurs.médiantrice. Et donc, on a aussi un Instagram. Pour y trouver tout votre bonheur,
je mettrai tous les liens de toute façon vers ces éléments dans la description de l'épisode.
Et puis il y a Pogno aussi qui vous dit bonjour.
Coucou Pogno. Pour les personnes en vidéo, vous voyez vous voyez Pogno à l'écran.
C'est elle qui est sur mes genoux, hein. C'est pas moi qui suis allé la chercher.
J'imagine qu'elle avait envie de son moment de star.
Voilà,
merci beaucoup Louis, c'était un plaisir, et au plaisir de la suite.
Eh bien, avec plaisir, Thomas, également. Merci beaucoup pour ton invitation et puis bonne continuation à toi.
Yes, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.